Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Ouais, je sais, j'ai mute le son, je me suis trompé. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée, que vous avez moins mal aux cheveux que moi. Première fois pour Backseat hier soir. J'étais sûrement la plus jeune. C'était génial. Bah, merci à toi d'être venu, c'est cool. J'ai juste pas osé venir te dire bonjour. Ah bah non! Non mais faut pas, faut venir. On est là pour ça, tranquille. Backseat hier, mais on n'est pas vendredi. T'as vu, ça décale tout dans la tête, hein. Moi je suis perdu, hein. Je sais plus quelle date on est, hein. Je sais plus comment on tient, hein. Comment participer à Backseat? Dans le public, il faut prendre sa place. Point d'exclamation place. Bah là, il n'y a plus Backseat avant septembre. Ou alors tu peux être membre du club Backseat. Si tu es membre du club Backseat, donc si tu as un abonnement à 15 € par mois, tu peux venir quand tu veux dans le public. Les bières sont gratos. Franchement, c'est un plan bière gratos une fois par semaine. Ça se défend pour 15 balles. On n'est pas en week-end ce soir. Non, on n'est pas en week-end ce soir. J'ai des avions de chasse qui passent au-dessus de chez moi. Des vrais avions de chasse, hein, pas des personnes très très belles. Parce que cette année, le 14 juillet, le défilé militaire du 14 juillet ne sera pas sur les Champs-Élysées à cause des Jeux Olympiques. Il sera sur l'avenue Foch. Et l'axe de l'avenue Foch, donc qui est l'axe de vol des avions pour le défilé aérien, survole du coup chez moi. Voilà. Du coup, j'ai des avions de chasse depuis hier là qui passent. Hier, il y avait 4 Alpha Jets de la patrouille de France. Cet après-midi, j'ai revu les Alpha Jets de la patrouille de France, je crois qu'ils étaient 6 ou 7. J'ai vu 2 Rafales, j'ai vu un Orion. Voilà quoi. Et du coup, c'est les répétitions du défilé aérien. Les répétitions qui servent aussi à prévenir la population. On fait défiler des avions de chasse au-dessus de Paris pour faire du bruit avec les réacteurs pour que les Parisiens s'habituent à ça et qu'ils soient pas surpris le 14 juillet en voyant débarquer une armada au-dessus de leur tête, qui fait beaucoup de bruit. Donc voilà. Vous savez que j'avais fait, moi, le défilé, les répétitions du défilé aérien du 14 juillet? J'étais dans un hélicoptère de combat. Je vous avais raconté ça. Il y a peut-être des gens qui connaissaient pas ma chaîne encore. C'était Acropolis à l'époque. Et j'avais survolé Paris en hélicoptère de combat. Ce qui n'existe jamais. Hein. Déjà, survoler Paris en hélicoptère, c'est interdit. En hélicoptère de combat, encore moins. Et je faisais partie, en fait, je faisais partie du pool de journalistes qui étaient invités par l'armée à monter dans les appareils pendant la répétition. Donc, c'était pas le 14 juillet, le défilé aérien officiel, le 14 juillet, c'était la répétition du défilé aérien. C'était le 11 juillet, donc. C'était en 2017 que j'avais fait ça. Et donc, voilà comment je me suis retrouvé à bord d'un Super Puma. Porte ouverte. J'étais face à la porte ouverte et j'ai survolé Paris. C'était trop de la balle. C'était trop de la balle. C'était trop trop bien. Et ouais, j'avais discuté avec le pilote du coup de l'hélico, qui était un pilote de l'aviation légère de l'armée de terre. Et je lui avais dit, après le vol, hein, on avait papoté un peu et tout, je lui avais dit, mais dis donc, ça doit être une mission assez difficile le 14 juillet. C'est un vol un peu particulier, il y a beaucoup d'avions dans le ciel, ça doit être difficile. Le mec m'a regardé, mais il a dit non. C'est la mission la plus pourrie de l'année. Lui dis, comment ça? Il me dit, bah, c'est un pauvre vol en ligne droite, en formation. Et à basse altitude, moi je suis formé à faire des extractions de militaires blessés de nuit en zone de combat. Autant te dire que le survol des Champs-Élysées, c'est une ligne droite, hein. C'est vraiment de la merde, on est en plein jour, ça n'a aucun intérêt, on se fait chier. J'étais en mode, ah ouais, vu comme ça, ouais, je comprends. Ok, non mais d'accord. Le mec se la pétait un peu. Et en même temps. Le mec, il est pilote d'hélicoptère de combat. Moi, je suis streamer en charentaise. Il y en a un des deux qui a le droit de se la péter un peu quand même. Il y a les hippodromes d'attente qui sont pires. Mais ouais, mais même, du coup, on a fait les hippodromes d'attente. Et il me disait, mais c'est hyper facile. C'est hyper facile. C'est que des avions alliés. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas de coup de feu. Il n'y a pas de missiles. Il n'y a pas de défense anti-aérienne. On se coordonne, on s'organise, on trace une ligne droite. C'est vraiment, c'est, t'apprends ça. Il m'a dit, t'apprends ça à la crèche. Hein. C'est vraiment, c'est première année de formation. C'est nul comme vol. T'es pas, y a aucune difficulté. C'est tout droit. Bah les couilles. Le mec, c'est en run pacifiste, oui, c'est ça. Lui, c'est la bagarre. Ah bah, il est formé à ça. Il est formé à la bagarre. Il est pas formé à... Enfin, ouais, bon, bref. Donc, effectivement, c'est assez rigolo. Le vol du 14 juillet, c'est un vol de merde. Pas intéressant, ligne droite. En plein jour. Avec que des avions alliés. Bon. Sinon, hier soir, le public était plein. Oui, ce soir, on était full. Hier soir, pardon, on était full, 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 hein. Énorme public backseat, plus d'une soixantaine de personnes dans le public. Bah c'était la dernière de la saison, du coup il y a plein de gens qui sont venus. En plus, c'est les vacances pour beaucoup de gens, donc du coup ils ont pu se démerder. En plus, c'était pas un jeudi, il y a des gens qui peuvent pas le jeudi, et du coup là ils pouvaient. Enfin bref, pour toutes ces raisons-là, le public était full. C'était noir de monde. Belle standing ovation à la fin. Ouais, non, c'était super émouvant cette fin de saison. C'était très très émouvant, j'étais très fier et très heureux qu'on ait réussi à boucler cette saison qui aura été rock'n'roll à plus d'un titre. Ça fait trois émissions basket, je peux pas venir parce que c'est plein. Ah désolé. Ouais, faut dégainer vite. C'était hier le dernier backseat de la saison, ouais. Et j'ai annoncé hier soir qu'il y aurait une saison 4 qui débuterait en septembre prochain. On n'a pas encore la date, on est en train d'organiser ça. Avec Malek, bah ouais, Malek très ému, Malek très très ému. Et c'était très beau à voir, et c'était très chouette. Y avait le décollage d'Ariane 6 et il y avait la défaite au football. Grosse soirée hier soir. On a perdu le foot. Ouais, on a perdu le foot, je crois. Je crois que la France a perdu 2-1, non? Contre l'Espagne. Des news du projet de festival Paul and Chill. Non, il n'y aura pas de festival Paul and Chill cette année. Ça coûte beaucoup trop cher. J'ai pas l'argent. Et la formule est pas encore top. Donc il n'y aura pas de festival. On n'est pas trop chill en ce moment. Ouais, en plus. En plus, en plus, en plus. Mais il y aura backseat. Et ça, c'est cool. Est-ce qu'il y aura un nouveau Premier ministre cette année? Ça, c'est une bonne question. Alors, alors justement, c'est pour ça que j'ai titré la douille de Macron, c'est que Emmanuel Macron semble être en train de consulter en vue de la formation d'un gouvernement de droite qui allierait les républicains aux macronistes. Donc, ce qu'il n'a pas réussi à faire pendant 2 ans, il serait en train de réessayer de le faire pour avoir un gouvernement minoritaire en espérant qu'il ne se fasse pas renverser. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a vu que hier à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de députés Renaissance qui s'interrogeaient sur leur positionnement et sur le fait qu'ils rejoindraient ou pas le groupe Renaissance. On a entendu également Sacha Houlié, vous vous souvenez, on l'avait invité sur Backseat, Sacha Houlié, macroniste de gauche, qui souhaite la création d'un groupe social-démocrate qui aurait vocation à faire alliance avec les socialistes, les écologistes et peut-être les communistes dans une coalition minoritaire, qui de toute façon serait minoritaire. Mais ça veut dire que ce sont d'autant moins de députés qui avaliseront un accord avec les Républicains. On a aussi appris que Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, avait déjeuné ou dîné, je ne sais pas, avec Thierry Solère, le conseiller d'Emmanuel Macron, et Marine Le Pen et Jordan Bardella. Alors, est-ce que ça donnerait potentiellement naissance à une coalition? Il a dit que non parce que ils ont des divergences de points de vue trop importantes. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron serait en train d'essayer de manœuvrer pour ne pas donner le pouvoir au nouveau Front populaire. Ce qui est une douille. En même temps, le Front populaire, je vous le rappelle, n'est pas foutu de donner un nom de Premier ministre, donc ça aide pas non plus. Et quoi qu'il en soit, et quelle que soit la configuration, on se retrouverait avec un gouvernement minoritaire. Et je vous le disais, l'enjeu pour un gouvernement minoritaire n'est pas tant d'obtenir une majorité qu'ils n'ont pas, que d'esquiver des motions de censure. Donc ce qui va se passer pendant les mois qui viennent, c'est que les gouvernements vont tenter de négocier des abstentions sur des motions de censure. Il y a des appels du pied de macronistes pour la formation d'un gouvernement d'union qui irait des socialistes au LR. Mais ça, je vous ai déjà expliqué hier que ça avait quand même très très peu de chances d'arriver. Et vous avez entendu sur le plateau de Baxit la porte-parole du Parti socialiste Chloé Ridel qui a rejeté complètement cette option en disant c'est mort, on reste avec le nouveau Front populaire. On a été élu pour appliquer un programme, on l'appliquera. Donc ça sent la douille, hein. Ça sent la douille. On a parlé de. J'ai entendu parler, alors évidemment, là, c'est tous les commentateurs politiques comme moi s'en donnent à cœur joie, donc on ne sait pas si c'est des vraies infos ou si c'est des bruits de couloir. Gérard Larcher, le président du Sénat, on a entendu. J'ai même entendu Jean-Louis Borloo. Il y a des mecs qui sont allés déterrer Jean-Louis Borloo, le radical, pour en faire un Premier ministre. On a entendu Xavier Bertrand, le très anti-RN Xavier Bertrand. On a aussi appris aujourd'hui l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du groupe des Républicains, qui ne s'appellera plus les Républicains, qui s'appellera la droite républicaine, ce sera le nom du groupe, à ne pas confondre avec le groupe des députés ciottistes, qui s'appelle À droite. Voilà, donc il y a deux groupes. Et du côté des macronistes, ce que je vous disais, c'est que ça va être intéressant à suivre dans les prochains jours parce qu'il va probablement y avoir plusieurs groupes macronistes. Horizon, c'est sûr, le MoDem, c'est sûr, mais peut-être aussi un groupe social-démocrate composé de combien de personnes, j'en sais rien. Estrosi qui démissionne aussi. Oui, Christian Estrosi a démissionné de la présidence de la métropole de Nice. J'ai pas très bien compris pourquoi. Apparemment, c'est le bordel dans sa majorité à la métropole. C'est possible. Houllier, il a déjà fait part qu'il siégeait à part, je crois. Oui, Houllier a dit qu'il siégerait pas avec Renaissance, mais il a aussi dit qu'il était en train d'essayer de constituer un autre groupe avec d'autres députés macronistes. Donc c'est pas juste Sacha Houlier qui va siéger en indépendant non inscrit, c'est Sacha Houlier qui essaye de se mettre à la tête d'une coalition, enfin d'une coalition, d'un groupe de macronistes avides de partager le pouvoir avec la gauche. Combien de personnes dans son groupe, c'est toute la question. Combien de personnes dans son groupe, j'en sais rien. Si c'est un groupe de 20 personnes, on s'en branle, c'est négligeable. Si c'est un groupe de 90 personnes, ça commence à ressembler à quelque chose qui peut potentiellement permettre au nouveau Front populaire de gouverner. Par abstention sur des motions de censure. Hypothétique. C'est ce que je vous disais qui me paraît, moi, un des scénarios les plus probables, mais là, vu ce que je lis depuis ce matin, je commence à le rediscuter, hein. Mais c'est ce que j'ai dit hier sur le plateau de Baxit, c'est que selon moi. Un scénario probable, c'est qu'Emmanuel Macron nomme le nouveau Front populaire au gouvernement, au pouvoir, et que Emmanuel Macron dise à ses députés, les macronistes, non pas de soutenir ce gouvernement, ce sera un gouvernement minoritaire, mais de s'abstenir de voter des motions de censure, en tout cas dans un premier temps. Et par ailleurs, de faire leur travail de député. Sous-entendu, faites des amendements, faites votre job. Cassez les burnes au gouvernement NFP avec des fucking amendements. Forcez-les à négocier leur programme. Comment le NFP peut gouverner? En négociant. C'est quoi un amendement? Un amendement, c'est une proposition de modification d'une loi. L'Assemblée nationale, son rôle premier, c'est d'écrire la loi. Et la loi, c'est un texte, hein, c'est un putain de document Word à la con, qui est proposé aux députés. Et les députés, pour débattre de la loi, vont proposer ce qu'on appelle des amendements. Donc c'est des propositions de modification. Tu sais, dans un document Word, quand tu fais un suivi des modifs et que tu fais une modification ou tu fais un commentaire sur le côté, ça te permet de faire un travail collaboratif avec d'autres personnes pour accepter ou pas les modifications du texte. Tu proposes de supprimer une phrase et la personne dit « Ok, je suis d'accord avec ta modification, on supprime la phrase. » Et ben ça, c'est un amendement adopté. Tu participes à l'écriture du texte. Et c'est ça le travail de l'Assemblée, d'écrire des projets de loi, de les négocier, de les discuter avec un travail d'amendement. Ensemble serait un groupe dans l'opposition. Si d'aventure le nouveau Front Populaire était appelé à gouverner, oui, le groupe Ensemble serait un groupe d'opposition au gouvernement. Les macronistes sont nettement plus vocaux contre le NFP que contre le RN. Je ne vois pas Macron nommer un Premier ministre NFP. Faut être plus précis que ça. Les macronistes sont vocaux contre la France insoumise. Ils essayent d'obtenir une scission du nouveau Front Populaire dans l'hypothèse de réussir à construire, avec les socialistes et avec les républicains, un gouvernement de coalition d'union nationale. Enfin, d'union. Quasi-union. Mais ça n'arrivera pas. Pour deux raisons, d'une part parce que les LR n'ont pas voulu pendant 2 ans, je vois pas pourquoi ils accepteraient maintenant, sauf si un Premier ministre vient de chez eux, ou proche, genre Darmanin, et d'autre part parce que le PS ne veut pas quitter le nouveau Front Populaire, à ce stade. Un nouvel En Marche, ouais voilà c'est ça, non mais c'est ça, c'est-à-dire que En Marche, en 2017, était une promesse, une proposition de dépassement des clivages gauche-droite. Et effectivement, En Marche a été constitué par des gens venant de la droite et de la gauche qui ont construit un grand parti centriste qui soutenait Emmanuel Macron. Mais du coup, toutes les personnes de droite et de gauche qui voulaient rejoindre En Marche l'ont rejoint. Ceux qui sont restés dans leurs partis respectifs, les Républicains à droite et le Parti Socialiste à gauche, bah, c'est des anti-En Marche. C'est des gens qui sont contre cette option-là. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils accepteraient de la faire maintenant. Nommer un PM issu de la majorité, c'est une tradition ou une obligation. Dès lors qu'il y a une majorité absolue, c'est une obligation politique. C'est pas écrit noir sur blanc dans la Constitution, mais ça découle du fonctionnement des institutions de la 5e, qui, à travers le fait majoritaire à l'Assemblée nationale, détermine que c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui gouverne, donc qui a un gouvernement, qui soutient un gouvernement en votant ses lois, en votant ses budgets, etc. C'est pour ça que le président de la République est obligé, politiquement, de nommer un Premier ministre qui a une majorité. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Aucun groupe et aucune coalition ne peut prétendre avoir la majorité absolue. Donc, on va se retrouver de facto avec un gouvernement minoritaire. Et là, Macron a un peu plus de choix. Le but pour Macron n'est pas d'avoir une majorité, parce qu'il ne l'aura pas. Le but pour Macron est qu'un gouvernement évite une motion de censure. Donc, un gouvernement minoritaire, mais pas trop minoritaire, quoi. C'est ça le challenge. Macron va s'exprimer dans une lettre aux Français cet après-midi. Eh ben, on va lire la lettre, hein, s'il daigne nous l'envoyer. Pourquoi le RN ne laisserait pas un gouvernement LR Renaissance? Alors ça, ce serait l'argument Ce serait l'argument, du coup, de cet hypothétique gouvernement Renaissance LR, auquel je ne crois toujours pas, mais admettons, ce serait de dire aux députés RN, attention, vous avez intérêt à soutenir ce gouvernement, ou à minima à ne pas le censurer, parce que sinon, l'alternative, c'est la gauche. Et les députés RN, vous voulez pas la gauche. Donc préférez Darmanin à Clémence Guettet. Est-ce que les députés RN vont accepter ça? Je pense pas. Les députés RN vont dire niquez-vous. On la connaît la douille, on connaît la Macronie, on n'en veut pas, on est opposé, etc. Tu lui as pas dit à Klimovic que la constituante c'était dette dans l'œuf? Si, si, mais il le sait très bien, Clément. Mais j'ai signé sa pétition, hein. Moi j'ai signé la pétition pour une assemblée constituante, hein. Moi je souhaite une assemblée constituante. Mais je suis lucide sur le fait que ça n'arrivera pas, en tout cas pas tout de suite, et que de toutes les façons, notre problème, il est là pour le budget de cet automne. Oh, il n'y aura pas de constituant d'ici cet automne, hein. Il n'y aura pas de nouvelle constitution, il n'y aura pas de nouvelle république, il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de... Donc la constituante est une idée que moi je soutiens à mort, mais je suis lucide sur le fait que ce n'est en aucun cas une solution à notre problème là. C'est quoi une assemblée constituante? Une assemblée constituante, ça n'a jamais existé, hein. Sauf en 1789, ce serait une assemblée qui serait élue. Ou tiré au sort, ça dépend, enfin, il y a plein de modalités possibles à discuter, une assemblée qui serait élue avec une seule et unique mission, c'est d'écrire une constitution. Voilà. Constitution qui, ensuite, serait soumise à l'approbation du peuple par référendum, et on passerait à une sixième république. Tu penses que Renaissance va perdre combien de députés vu comme c'est parti? J'en sais rien, je sais pas du tout. J'attends de voir, je suis comme vous. J'attends de voir ce que Sacha Houlier réussit à faire ou pas avec sa création de groupe social-démocrate. Le problème majeur, c'est pas la Constitution, mais le mode de scrutin. Bah, pas vraiment. Pas vraiment. Le mode de scrutin majoritaire, aujourd'hui, donne des résultats très similaires à un mode de scrutin proportionnel. Donc, le scrutin majoritaire ne parvient plus à faire ce pour quoi il a été créé, c'est-à-dire à donner des majorités stables. Donc, combien de temps Macron peut tenir avec le gouvernement Attal inchangé? De toutes les façons, je vous le disais, un gouvernement n'a de réalité politique que dans sa capacité à agir en faisant voter des lois. Le gouvernement Attal n'a pas de... De toute façon, l'Assemblée nationale ne siège pas en ce moment. Le gouvernement Attal, pour l'instant, il tient juste en tempo, en fait. En tempo, en attendant d'être capable de nommer un autre Premier ministre. Bonjour, tu peux expliquer pourquoi le RN perd alors qu'ils ont plus d'électeurs que le nouveau Front Populaire? Parce que c'est une élection par circonscription. C'est une élection au scrutin majoritaire par circonscription. Donc c'est pas le nombre de voix au niveau national qui compte, c'est la capacité à faire élire circonscription par circonscription des députés. Et en l'occurrence, il y a eu un très très fort Front Républicain contre le Rassemblement National, où à la fois les candidats se sont désistés dans plus de 200 circonscriptions pour faire barrage au Rassemblement national, et en plus de ça, les électeurs se sont fortement mobilisés pour faire barrage au Rassemblement national. Voilà ce qui donne une majorité aux anti-RN, malgré le fait que le RN soit victorieux de l'élection en nombre absolu de voix. Et ils ont plus de voix aussi parce qu'il y avait plus de candidats RN que Front Populaire. Oui, et effectivement, tu as raison, ça découle de ce que je disais sur les désistements. Vu qu'il y a eu des désistements au second tour, beaucoup d'électeurs n'ont pas pu voter Front Populaire parce qu'il n'y avait pas de bulletin Front Populaire sur la table. Donc, mécaniquement, comme le RN était présent au second tour dans quasiment 577 circonscriptions, ils ont mécaniquement eu plus de voix, puisqu'il y avait plus de possibilités de voter RN que de voter nos nouveaux Front Populaire ou Renaissance. Donc c'est aussi pour ça. Quid d'une motion de censure constructive qui n'existe pas en France, ça changerait complètement les stratégies. Bah non, 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 la motion de censure constructive, elle est possible en France. Ce qu'on appelle une motion de censure constructive, c'est une proposition alternative de gouvernement. La logique institutionnelle veut que si d'aventure une motion de censure était majoritaire à l'Assemblée nationale, alors le président de la République appellerait à gouverner cette nouvelle majorité qui vient de naître, puisqu'ils sont d'accord pour voter une motion de censure. C'est ça le principe du caractère constructif du truc. Si une motion de censure est adoptée, alors on doit revoter une assemblée. Non, si une motion de censure est adoptée, on ne doit pas revoter pour une nouvelle assemblée. Si une motion de censure est adoptée, le gouvernement dégage, mais l'assemblée reste. On peut se retrouver dans la situation où, faute de pouvoir former un nouveau gouvernement avec une majorité ou une minorité suffisante, le président de la République prend la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais là, non. Est-ce que c'est possible de progressivement aller vers un système à l'allemande à base de coalition comme l'appelle Raphaël Glucksmann? Bah, peut-être que contraint et forcé, c'est ce qui va se passer, hein. La France n'a pas de culture de la coalition, c'est vrai. Les Allemands l'ont parce qu'ils ont un système politique qui est différent du nôtre. Mais peut-être qu'on va, au pied du mur, apprendre à fonctionner comme ça. Pour l'instant, moi, ce que je constate, ce sont des groupes politiques radicalement fermes sur leur programme et leurs propositions et qui refusent de les amender. C'est le cas pour le Nouveau Front Populaire, c'est le cas pour Renaissance, qui ne veut pas gouverner avec la France Insoumise, et c'est évidemment le cas pour le Rassemblement National. Et c'est le cas pour les Républicains qui ont refusé de faire une coalition avec Emmanuel Macron pendant 2 ans. Donc pour l'instant, on reste dans un système un peu bloqué où personne ne veut avancer. Enfin, personne veut avancer, pardon. Personne n'est prêt à amender son programme pour gouverner avec les autres. Moi, ce que je dis, c'est qu'il est possible qu'on apprenne à bosser en coalition parce qu'on n'a pas le choix. Comment et par qui est prise la décision d'un gouvernement technique? Le président de la République. Le président de la République, constatant le blocage institutionnel à l'Assemblée, peut être amené à nommer un gouvernement technique. Moi, je pense que les dîners entre Philippe et Le Pen vont former la prochaine coalition. Vous en pensez quoi? Ça pourrait l'indiquer, effectivement, le fait qu'Édouard Philippe accepte d'aller dîner avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, peut-être que ce serait les premiers pas vers une forme de, peut-être pas de coalition, je pense pas, mais d'abstention sur de votes de motion de censure. Après, quand j'écoute ce que dit Édouard Philippe, a priori, non. Édouard Philippe dit, oui, j'ai dîné avec Marine Le Pen, mais j'ai constaté qu'on n'était pas d'accord. Donc on ne se dirige pas vers une coalition. Pour moi, c'est déjà en soi une compromission incroyable, hein, de la part d'Édouard Philippe, d'accepter d'aller dîner avec Marine Le Pen, mais de ne pas aller dîner avec Jean-Luc Mélenchon. C'est déjà en soi un signe grave que le cœur penche à droite, quoi. Il a proposé un dîner à Jean-Luc Mélenchon? Ah bon? J'ai entendu dire qu'il n'avait rien proposé du tout à Jean-Luc Mélenchon et qu'il avait juste dit sur des plateaux télé qu'il était prêt à dîner avec n'importe qui. Ce qui est une phrase que tu peux lancer sur un plateau télé très facilement. Oui, je pourrais très bien dîner avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais le fait est que tu l'as pas fait. Tu as dîné avec Marine Le Pen. Excuse-moi, c'est un moment juste. Oui, moi aussi je pourrais dîner avec n'importe qui, mais c'est pas le sujet. Pourquoi il n'y a pas eu de manifestation de fascistes pour protester contre les résultats? Parce qu'ils n'ont pas la culture de la manif, les fachos. Ils ont plutôt la culture de la ratonnade. Donc la situation semble peu claire. Il semblerait, en tout cas, voilà, c'est l'information de ce jour, d'aujourd'hui, là, il semblerait qu'Emmanuel Macron souhaite éviter de donner le pouvoir au nouveau Front Populaire. Et il essaye de trouver un truc. Alors le truc n'est pas encore clair. Il essaye de préparer une douille et il essaye d'organiser les choses pour que le NFP n'ait pas le pouvoir. En comptant sur la division du NFP, qui de toutes les façons n'arrivera pas à se mettre d'accord sur un nom de candidat unique en 2027, et qui donc sera potentiellement encore une fois éliminé du second tour. Ça sert à quoi d'être allé voter? Ça a servi à élire des députés, qui aujourd'hui participent aux négociations dont je parle. Compter sur la division de la gauche, ça lui a pas réussi deux fois. Dans des contextes de scrutin législatif. Je vous rappelle que la NUPES et le Nouveau Front Populaire, ce sont des alliances de partis de gauche qui se mettent d'accord d'abord et avant tout pour ne pas se gêner les uns les autres. C'est pas tant un mariage d'amour qu'un mariage de raison. Je vous rappelle que les partis de gauche sont très divisés en France. On l'a vu pendant les européennes, il y a des vraies divergences de points de vue sur des sujets importants, etc. Mais ils se mettent quand même ensemble aux législatives parce qu'ils y ont intérêt mutuellement. J'entends, je lis parfois des gens qui disent, ouais, la France insoumise a sauvé les fesses du PS. En fait, l'inverse est vrai aussi. Donc, encore une fois, c'est un mariage de raison. Ils se sont mutuellement sauvés le cul, tous, en disant, venez, on se gêne pas les uns les autres dans les circos, sinon on est sûr d'être de tous être morts. Personne n'aura rien à y gagner. C'est ce qui s'était passé en 2017, je vous rappelle, en 2017, Jean-Luc Mélenchon fait 20% au premier tour de l'élection présidentielle, et il se retrouve avec seulement 17 députés. C'est ridicule, 17 députés. Quand t'as fait 20% à la présidentielle, c'est microscopique, tu pèses que dalle. Et pourquoi il s'est retrouvé avec 17 députés, Jean-Luc Mélenchon? Et parce que dans toutes les circonscriptions, il y avait d'autres candidats de gauche, face à lui. Et du coup, tout le monde s'est niqué et bah voilà, baisé. Tout le monde a perdu. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Sais plus de quoi ça partait. LFI a cédé 100 circos quand même. Oui, bah justement, dans le rééquilibrage de l'accord par rapport à la NUPES, le nouveau Front Populaire est davantage socialiste et moins insoumis. On l'a vu dans les résultats des urnes. Non, non, si je disais ça sur la division de la gauche, je disais ça sur la division de la gauche en disant qu'effectivement la gauche se réunit sur des scrutins par circonscription, parce qu'elle en a besoin, mais que par contre, au moment de l'élection présidentielle, là, la gauche est divisée. Et la gauche présente plein de candidats. Et il se passe la même chose au niveau national que ce qui se passe au niveau des circonscriptions, c'est-à-dire que les candidats de gauche se gênent les uns les autres et s'empêchent d'arriver au second tour. Et c'est ce qui risque de se passer en 2027 où la gauche va être à nouveau divisée. Il y a toujours plus de LFI que de socialistes pour le moment. Ça, c'est vrai. Oui. Non, non, les LFI sont toujours majoritaire au sein du nouveau Front Populaire en nombre de députés, mais les socialistes ont doublé leur nombre de députés. Donc les LFI sont toujours devant, mais les socialistes ont vachement remonté la pente. Ils sont quasiment à touche-touche avec les insoumis, alors qu'avant ils étaient plus de deux fois moins nombreux. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a eu un rééquilibrage entre le NFP et, entre la NUPES et le NFP. Wauquiez élu président du groupe LR à l'Assemblée. Oui, j'ai appris ça. Laurent Wauquiez a été élu président du groupe LR à l'Assemblée. Il va donc jouer un rôle central dans les négociations avec Emmanuel Macron. On a appris aussi que Mathilde Panot avait été réélue présidente du groupe de la France Insoumise, Boris Vallaud a été réélu président du groupe socialiste, Marc Fesneau a été élu président du MoDem, du groupe MoDem, oui, pas étonnant. Les écolos, je sais pas. Est-ce que c'est Cyrielle Chatelain à nouveau? Je sais pas, on verra. Je suppose. Pourquoi ne pas faire un seul groupe NFP à l'Assemblée? C'est une bonne question. Parce que ce sont des groupes qui ont des idées parfois différentes et des méthodes souvent différentes aussi. Et personne ne souhaite se retrouver dans un groupe NFP dans lequel il serait minoritaire. Quel avenir pour le NFP selon toi? Tout va dépendre de ce que fait Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron fait une douille et décide de nommer un Premier ministre de droite en espérant faire une alliance avec LR, voire une partie du RN, le NFP va être uni comme un bloc, va être soutenu par un mouvement de contestation populaire, etc. Et on verra ce qui se passe en 2027. Si Emmanuel Macron nomme le NFP au pouvoir, on verra combien de temps tient l'attelage. Donc on verra. Pas de NFP au pouvoir, ils n'ont pas de majorité. Alors pour être précis, ils ont une majorité relative. Et compte tenu de la composition de l'Assemblée nationale, il faut qu'on apprenne, moi le premier, à arrêter de penser en majorité absolue. Il n'y a plus de majorité absolue. C'est fini. Maintenant, il y a que des gouvernements minoritaires qui sont possibles. Je vous rappelle que Elisabeth Borne et Gabriel Attal sont des gouvernements minoritaires. Ils avaient que 245 députés, ce qui était beaucoup par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'était pas suffisant pour faire une majorité absolue. Le RN vise la présidentielle, quel intérêt pour eux de faire alliance? Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que le RN, ils ont raté cette élection. Ils voulaient que ce soit l'élection où ils ont une majorité absolue pour gouverner. Donc, ils ont raté la marche. Mais ils se disent, pas grave, pas grave, ce sera pour la prochaine. Donc, en attendant, il faut qu'on reste d'opposition. Je pense que le RN n'a pas intérêt à se compromettre dans une coalition et qu'ils ont intérêt à rester dans l'opposition pour apparaître aux yeux des électeurs comme une alternative et remporter 2027. Emmanuel Macron va adresser mercredi soir une lettre aux Français dans la presse régionale. Bon, bah ce sera ce soir. On lira ça sur l'oreiller. Et on débriefe demain. Fin d'après-midi d'après Libé. D'accord. Wauquiez refuse d'entrer dans une coalition gouvernementale. Voilà. Bah ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Les Républicains sont fidèles à eux-mêmes. Ils refusent de faire une coalition avec Macron. On est d'accord que le gouvernement n'est pas obligé de se soumettre à un vote de confiance en arrivant au pouvoir. Oui, je te le confirme. C'est ce qui s'est passé avec Elisabeth Borne et Gabriel Attal, qui ont prononcé des discours de politique générale sans solliciter de vote de confiance. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un vote de confiance pour gouverner. Ce qui est obligatoire, c'est d'éviter une motion de censure. Et jusqu'à présent, Elisabeth Borne et Gabriel Attal les ont évitées. Aujourd'hui, c'est quoi la situation chez LR d'ailleurs? C'est toujours Ciotti le patron. Je sais pas quelle est la situation dans le parti politique Les Républicains. Éric Ciotti est le président d'un groupe de députés à l'Assemblée nationale qui s'appelle À droite, qui soutient le Rassemblement national. Et il y a un autre groupe de députés LR anti-RN, présidé par Laurent Wauquiez. Voilà la situation parlementaire pour les LR. En revanche, le parti politique. Peut-être dit dans ce cas, désolé, mais si Macron attend que l'Assemblée se rassemble et voit si elle vote une motion de censure, il se passe quoi? Il pourrait. Bah c'est peut-être ce qui va se passer, hein. C'est peut-être ce qui va se passer à partir du 18 juillet quand les députés vont siéger. Peut-être que le premier truc qu'ils vont faire, c'est voter la censure du gouvernement Attal. Gouvernement de façon démissionnaire, donc ce sera purement symbolique. Mais ça solutionnera pas le problème. Non, moi je vous dis. Je continue à m'accrocher à l'idée qu'Emmanuel Macron va nommer le NFP au pouvoir, même si je suis un foutu de vous dire qui sera le Premier ministre, parce que même le NFP est un foutu de vous le dire. Et je pense que Macron va négocier avec le NFP pour que les députés macronistes s'abstiennent de voter une motion de censure. En tout cas, dans un premier temps. Et peut-être que la négociation passera par le fait qu'il faut des députés, des ministres macronistes dans ce gouvernement NFP. Peut-être que ce sera ça la condition. En disant vous voulez pas vous faire dégager? Eh ben vous acceptez d'avoir quelques ministres à nous. Comme ça scelle notre alliance. Et là, à ce moment-là, on aura une coalition. J'ai beaucoup de mal à imaginer une coalition. Pourquoi la majorité ne voterait pas la motion de censure? Pour ne pas apparaître comme une force de blocage. Pour ne pas mêler ses voix à celles du RN. Et pour dire nous sommes responsables, nous laissons la gauche gouverner. Par contre, on va déposer des amendements. Et le gouvernement NFP va avoir besoin de les discuter, ces amendements, s'ils veulent qu'on continue à ne pas voter de motion de censure. Quelques ministres macronistes, mais en gardant le programme du NFP. C'est ce que je suis en train de dire, justement, sur le travail des amendements des macronistes. C'est justement une difficulté pour le NFP qui sera obligé de faire avec des amendements et peut-être d'en accepter certains. Pour se ménager une porte de sortie. C'est pour ça que le programme du NFP, il va peut-être être amendé dans les faits. Est-ce qu'il voterait le budget? Très bonne question, est-ce qu'il voterait le budget? Pas sûr. Députés macronistes, les connaissant, à mon avis, ils vont dire au NFP, ah, vous voulez qu'on vote le budget? Très bien, alors à ce moment-là, vous ne devez pas augmenter les impôts et vous devez rester dans la barre des 3% de déficit. Démerdez-vous, présentez-nous un budget et on le votera si vous respectez ces conditions. T'as parlé de l'aile gauche macroniste qui menace de créer un groupe à part. Oui, j'en ai parlé. C'est Sacha Houlier, notamment, qui était venu sur le plateau de Baxit, qui est en train de manœuvrer pour créer un groupe social-démocrate au sein de la Macronie. Un groupe qui serait favorable à une coalition avec les socialistes, les écolos, les communistes, mais pas les insoumis. Donc, un truc minoritaire. La lettre est sortie? Ah! Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Je l'ai pas. Nick. Le Parisien? Je suis sur le site du Parisien là. Sur le direct, sans doute. Une lettre aux Français que nous publions. Voilà. Alors, Emmanuel Macron rompt le silence 3 jours après les résultats des législatives. 3 jours après les élections législatives anticipées, le président de la République rompt le silence dans une lettre aux Français que nous publions avec les autres titres de la presse quotidienne régionale. Chères Françaises, chers Français. Le 30 juin et le 7 juillet dernier, vous vous êtes rendus aux urnes en nombre pour choisir vos députés. Je salue cette mobilisation, signe de la vitalité de notre République, dont nous pouvons, me semble-t-il, tirer quelques conclusions. Il semblerait, oui. D'abord, il existe dans le pays un besoin d'expression démocratique. C'est vrai. Ensuite, si l'extrême droite est arrivée en tête au premier tour avec près de 11 millions de voix, vous avez clairement refusé qu'elle accède au gouvernement. C'est vrai. Enfin, personne ne l'a emporté. C'est une question de point de vue. Aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante et les blocs ou coalitions qui ressortent de ces élections sont tous minoritaires. C'est vrai. Divisés au premier tour, unis par les désistements réciproques au second, élus grâce aux voix des électeurs de leur ancien adversaire, c'est vrai, là ils pensent aux NFP et aux macronistes, seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. Dans la bouche d'Emmanuel Macron, force républicaine, ça exclut LFI. Hein. La nature de ces élections, marquée par une demande claire de changement et de partage du pouvoir, les oblige à bâtir un large rassemblement. Okay. Président de la République, je suis à la fois protecteur de l'intérêt supérieur de la nation et garant des institutions et du respect de votre choix. Eh ben, nomme un gouvernement NFP alors. C'est à ce titre que je demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, l'état de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française, d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle, pour le pays. Les idées et les programmes avant les postes et les personnalités, ce rassemblement devra se construire autour de quelques grands principes pour le pays, de valeurs républicaines claires et partagées d'un projet pragmatique et lisible, et prendre en compte les préoccupations que vous avez exprimées au moment des élections. Il se garde bien de les lister. Il se garde bien de les lister. Parce que là, moi, cette phrase, elle est complètement creuse. Hein. Enfin, j'ai n'importe quel parti et rentre là-dedans. Oui, d'accord. Elle devra garantir la plus grande stabilité institutionnelle possible. Dixit, le mec qui a dissous il y a 20 jours. Il est sérieux, lui? Elle rassemblera des femmes et des hommes qui, dans les traditions de la Ve République, placent leur pays au-dessus de leur parti, la nation au-dessus de leur ambition. Ce que les Français ont choisi par les urnes, le front républicain, les forces politiques doivent le concrétiser par leurs actes. C'est à la lumière de ces principes que je déciderai de la nomination du Premier ministre. Cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité et respect de chacun. D'ici là, le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités, c'est normal, puis sera en charge des affaires courantes comme le veut la tradition républicaine. Oui, ça c'est normal. Plaçons notre espérance dans la capacité de nos responsables politiques à faire preuve de sens de la concorde et de l'apaisement dans votre intérêt et dans celui du pays. Notre pays doit pouvoir faire vivre, comme le font tant de nos voisins européens, cet esprit de dépassement que j'ai toujours appelé dans mes voeux. Voilà, on y vient. Emmanuel Macron rêve et appelle de ses voeux une alliance du PS aux Républicains qui n'arrivera pas. Votre vote impose à tous d'être à la hauteur du moment, de travailler ensemble. Dimanche dernier, vous avez appelé à l'invention d'une nouvelle culture politique française. Pour vous, j'y veillerai. En votre nom, j'en serai le garant. En confiance, Emmanuel Macron. Cette lettre ne dit rien. Emmanuel Macron appelle les forces républicaines à travailler ensemble. Super, la belle affaire. Tout ça pour ça. Franchement, ça va. T'as pas la peine d'envoyer une lettre, hein. Tu peux faire un tweet. Emmanuel Macron appelle au dépassement des clivages et à une majorité plurielle, etc., etc. Bref, il appelle à faire du macronisme, comme il l'a souhaité, comme il l'a voulu en 2017, comme il a été élu pour le faire, et comme il a échoué à le faire. Il met la pression sur les partis en disant « Attention, si vous jouez trop le jeu de la tambouille et que vous refusez de bosser ensemble, ça voudra dire que vous réfléchissez plus à vos ambitions personnelles qu'à l'intérêt du pays. » Donc on n'est pas plus avancé. En revanche, non, ce que dit Emmanuel Macron dans cette lettre aussi qui est important à noter, c'est qu'il dit que ça prendra du temps. Ok, dont acte. Ça prendra du temps. Ça va pas être résolu en 2 semaines. Ça va probablement durer tout l'été. On verra. Et Emmanuel Macron souhaite laisser le temps aux partis de discuter. Et il parle d'une nouvelle culture politique. Ça, je suis d'accord avec lui. Vous avez appelé à l'invention d'une nouvelle culture politique française. Ça, c'est vrai, effectivement, on se retrouve en France dans une situation de gouvernement minoritaire, avec ou pas des coalitions, ce qui n'est pas dans l'habitude de la culture politique de la Ve. Est-ce que la Ve République peut survivre à cette nouvelle culture? Je ne sais pas. Est-ce que le temps peut jouer en faveur du nouveau Front Populaire? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il est dans l'intérêt du nouveau Front Populaire d'être appelé au pouvoir vite. Et c'est ce que souhaite le nouveau Front Populaire pour créer une rupture. Le Front Populaire a besoin de montrer aux Français que les choses changent radicalement. Donc d'un gouvernement qui change complètement la politique. Je pense que le temps joue en faveur des macronistes. Si l'honnêteté veut montrer ce changement radical, il va pas laisser passer l'été. En fait, moi je pense que le NFP a intérêt à arriver au gouvernement, à prendre des décisions radicales et à se faire dégager par une motion de censure. Ce qui leur permettra de retourner devant leurs électeurs en disant « Regardez, regardez l'alliance RN macroniste qui ne veut pas que nous prenions des décisions pour vous, que nous allions dans votre sens, etc. » Voilà, on a été censuré par une alliance entre les fachos et les bourgeois, on est la vraie gauche, etc. machin. On a essayé, on n'a pas réussi parce qu'ils ne veulent pas votre intérêt, etc. etc., etc. Et le NFP redevient un groupe d'opposition. Alors oui, mais ça laisse place à quel gouvernement après? Ça, c'est une bonne question. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. « Retour à l'envoyeur, on se retrouve dans la même merde. Et c'est reparti pour un gouvernement technique ou une alliance chelou avec les LR qui continuent à ne pas voter les lois. Le RN d'opposition aussi. Le RN, lui, il a intérêt. Le RN a intérêt soit un gouvernement NFP, soit un gouvernement technique qui ne fait rien, soit un blocage institutionnel total. Parce que dans tous les cas, ils pourront aller devant les Français en disant « Regardez, on est l'alternative. Regardez toutes ces magouilles là, regardez tous ces politiques qui discutent, qui piapiatent, etc. Regardez cette extrême gauche NFP, immigrationniste, etc. » Le RN, pour moi, reste un parti contestataire qui a intérêt à la bordélisation du paysage politique. Hein. Ils en tirent les marrons du feu, donc... T'as vu que Wauquiez refusait la coalition avec Macron ? Ouais, j'ai vu. C'est normal. C'est normal. Les Républicains sont dans leur droite ligne, ligne qu'ils ont tenue pendant 2 ans. Ah non, les Républicains n'ont pas intérêt à rejoindre le Titanic macroniste. À être une force d'appoint du macronisme, sûrement pas. Mais du coup, si tout le monde reste dans leur droite ligne, la France stagne. Oui, et la question, c'est à qui ça bénéficie, ça ? Qui sort grandi politiquement d'une stagnation, d'un gouvernement technique, d'un blocage institutionnel, etc. Je suis pas sûr que ce soit le parlementarisme. Le RN, sans doute, ouais. Donc, à t'entendre, l'arrivée du RN est inévitable. Non, c'est pas inévitable l'arrivée du RN, notamment parce qu'on a vu dimanche dernier qu'il existe en France un Front Républicain. Il y a en France un Front Républicain. Il y a en France des gens qui vont voter lorsque l'essentiel est en jeu, notamment des abstentionnistes, des gens qui n'aiment pas les partis politiques, les gens qui n'aiment pas apporter leur voix à ce qu'ils considèrent être des magouilles et des calculs politiciens, etc. Ça, on le connaît depuis longtemps. Mais ce sont des abstentionnistes qui, lorsque l'essentiel est en jeu, lorsque l'extrême droite pointe le bout de son nez et est aux portes du pouvoir, ils se déplacent et ils vont voter contre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un vote d'adhésion aux propositions des partis politiques. Mais en tout cas, il existe un barrage républicain. Après, à la présidentielle, le barrage républicain, je vous rappelle qu'il a fonctionné à 2 reprises pour élire Emmanuel Macron, mais que la deuxième fois, il est passé à 55% Emmanuel Macron. C'était pas non plus un Front Républicain phénoménal. Hein. 58% la deuxième fois ? Ok, d'accord. Je crois que c'était 55. 2027 fait peur. Ah bah là, on se dirige vers un 2027 avec une extrême droite unie derrière Marine Le Pen, une gauche divisée, et une Macronie probablement divisée aussi, hein, avec 2 candidats au moins. Comment expliquer que Renaissance ait autant sauvé les meubles ? L'électorat Renaissance est un électorat mobilisé. Ce sont des gens qui votent, d'une part. Et d'autre part, il y a eu un Front Républicain avec des désistements. Donc Renaissance a sauvé les meubles grâce à des voix de la gauche, qui ont voté pour des candidats Renaissance pour faire barrage au Rassemblement National. De la même manière que beaucoup de députés de gauche ont été élus grâce à des désistements, c'est pas les plus nombreux, mais grâce à des désistements de macronistes. Il espérait quelle situation Macron avec sa dissolution, je comprends toujours pas. Moi non plus. Emmanuel Macron a perdu. Emmanuel Macron, sa dissolution est un échec. Il voulait que ce soit un exercice de clarification, ce n'est pas le cas. Il voulait hypothétiquement s'en sortir avec une majorité, ce n'est évidemment pas le cas, il perd 100 députés. Voilà, il n'avait pas besoin de dissoudre, il a voulu le faire. On a toujours dit que l'abstention favorisait le RN, mais les européennes et le premier tour des législatives ne prouvent-ils pas le contraire? Alors, il y a une mutation de l'électorat. Désormais, le RN est un parti qui mobilise des électeurs. Pendant très longtemps, on disait que l'abstention bénéficiait au RN parce que, en négatif, ça faisait monter les partis contestataires comme le RN. En réalité, aujourd'hui, on constate que le RN est un parti qui récolte beaucoup de suffrages de gens qui se déplacent pour aller voter avec enthousiasme pour soutenir son programme. Son programme ou ses idées ou ses leaders. Il aurait dissous, forcé et contraint en septembre pour la loi de finances. Eh ben, ça aurait été logique à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec l'analyse d'Emmanuel Macron qui dit ouais, mais si j'avais pas dissous, de toutes les façons, j'aurais pris une motion de censure à l'automne. Eh ben, à ce moment-là, d'accord, très bien. Dont acte. C'est probable, effectivement. Ben, à ce moment-là, t'attends d'avoir une motion de censure adoptée, et là, tu dissous. Mais c'est pas du tout le même récit. C'est pas du tout la même chose. De dissoudre après une motion de censure, c'est logique. C'est une cohérence institutionnelle. Tu es contraint et forcé, machin, t'en appelles au vote des Français. Très bien. Mais là, il a décidé de dissoudre après les européennes. Il voulait leur faire péter la grenade dans les jambes, comme il a dit. Alors, la grenade a fonctionné vis-à-vis des Républicains, qui se sont scindés en deux, mais pas vis-à-vis de la gauche, qui s'est réunie. Si Macron pensait qu'il allait réussir à empêcher le Front populaire, c'est raté. La preuve, la gauche arrive en majorité relative à l'Assemblée nationale. Les grenades, c'est pas très précis, exactement. Et il a sans doute fait exploser son parti. Oui, je suis d'accord. Il a sans doute réussi à créer une scission au sein de son propre parti. L'extrême droite aussi s'est reconstituée en quelque sorte avec la fin de Zemmour. Absolument, ouais. L'hypothèse Zemmour comme un élément de dislocation de l'extrême droite n'a pas fonctionné. Zemmour est un pétard mouillé qui n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait obtenir et qui n'a pas permis de diviser l'extrême droite. L'extrême droite est clairement réunie derrière le Rassemblement national. Il y a des chances que Renaissance explose. Oui, visiblement, Sacha Houlié, aujourd'hui, qui est un député macroniste de l'aile gauche de la Macronie, est en train de tenter de créer un groupe de députés social-démocrates qui seraient amenés à soutenir un gouvernement de gauche. Donc peut-être que c'est une scission. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la question de l'émancipation des députés macronistes. Est-ce que les députés macronistes vont continuer à obéir à l'Élysée, ou est-ce qu'ils vont estimer que maintenant ça suffit Ils répondent plus aux coups de sifflet. Est-ce que Macron va être lâché par ses propres députés? C'est ça la question. Je sais pas. Je sais pas. Pareil pour Mélenchon et ses députés LFI. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Non, non, Mélenchon, il a un groupe stable à l'Assemblée nationale, hein, avec plus de 70 députés. Mathilde Panot a été réélue présidente du groupe LFI. Et les quelques députés qui ont été réélus malgré la purge ne siégeront pas avec la France Insoumise et sont en train de voir où est-ce qu'ils siégeront et ils essayent de créer des trucs et tout. Coucou Jean, merci pour tes lives formidables. Que penses-tu de la formule de Macron dans sa lettre aux Français? Personne ne l'a remporté. C'est une formule qui n'est pas fausse. Si tu considères qu'emporter une élection, c'est avoir une majorité absolue de députés. Oui, effectivement, aucun groupe politique et aucune coalition n'a de majorité absolue de députés. D'accord. Une fois que tu as dit ça, il faut regarder du côté des majorités relatives. Et là, soit tu prends le premier groupe, c'est les macronistes. Alors, non, parce que c'est une coalition, donc c'est le RN. Soit tu prends la première coalition, auquel cas c'est le nouveau Front Populaire. Donc ça dépend comment tu regardes les choses. S'il est peu possible, s'il est difficile de dire qui a gagné cette élection, il est par contre facile de dire qu'il a perdu. C'est le Rassemblement National, qui n'a ni majorité absolue, ni majorité relative, et qui arrive même en troisième position. Oui, mais premier groupe quand même, le RN. Oui, le RN est le premier groupe numériquement à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas la première coalition. C'est le nouveau Front Populaire qui est la première coalition. Les ciottistes vont faire un groupe du coup, oui. Oui, les députés ciottistes, donc les députés LR qui soutiennent le RN, ont un groupe à l'Assemblée nationale qui s'appelle À droite. C'est le nom du groupe. Et ils ont, je sais plus combien de députés. Une vingtaine. Dix-sept, voilà. 17. Bah, comme les Insoumis en 2017, voilà. Ciotti va rejoindre le RN? Non. Non, Ciotti ne va pas rejoindre le RN. Ciotti va être associé au RN. Mais il va pas les rejoindre. Alors, cette battle avec Klemovic sur la constituante, toujours sceptique. Ah non, mais moi j'ai signé la pétition de Clément, hein. Moi je suis pour une assemblée constituante, je suis méga pour. Ça ne résoudra pas le problème. À court terme. Notre problème là, il est à court terme. Constituante, c'est un travail sur plusieurs années, qui donnerait hypothétiquement naissance à une constitution pour une 6ème République qui serait adoptée hypothétiquement dans un référendum, mais dans plusieurs années. Mais ça change rien, la constituante, ça, elle travaille en parallèle de l'Assemblée nationale. Si d'aventure elle était votée. Moi je suis méga favorable à une constituante, hein, let's go. Pourquoi est-ce que le problème serait plus à court terme? Parce que là on cherche un gouvernement pour maintenant. On cherche un gouvernement pour voter un budget à l'automne prochain, dans le cadre d'une assemblée qui vient d'être élue et qui ne va pas pouvoir être dissoute avant un an. Donc, je veux dire, les enjeux politiques immédiats ne seront pas du tout réglés par une constituante qui ne travaillera pas à ça. Travaillera à autre chose, à écrire une constitution. Quel parti est pour une constituante? La France insoumise. En l'état actuel des choses, une constituante ne sera pas adoptée par une majorité de députés. la proposition de loi constitutionnelle visant à créer une assemblée constituante ne sera pas adoptée. C'est d'autant plus facile de signer la pétition. Donc c'est pour ça, je vois certaines personnes se diriger vers l'idée d'une constituante comme une espèce de solution de Deus ex machina qui va venir solutionner le trouble politique, la difficulté à l'Assemblée, etc. Je suis désolé de doucher vos espoirs, ça ne marche pas comme ça. Pareil pour une démission du président de la République. La démission du président de la République ne change rien à l'Assemblée nationale. Un nouveau président qui est élu là dans 2 mois, il a le même problème que Macron. Et c'est pas parce que ce sera une personne différente que ça changera les choses. Ce serait quoi la solution? Il n'y a pas de solution là. Il n'y a pas de solution. Soit un gouvernement technique qui ne sera pas censuré parce qu'il expédiera les affaires courantes et se bornera à ne faire que ça. Soit, comme je vous le disais, un nouveau Front populaire au pouvoir qui se fait dégager par une motion de censure. Soit un nouveau Front populaire au pouvoir qui ne se fait pas dégager par une motion de censure par les macronistes qui préfèrent jouer de leurs amendements pour empêcher l'application du programme du nouveau Front populaire. Soit une coalition droite-extrême droite, j'y crois pas. Soit une coalition socialiste, macroniste, LR, j'y crois pas non plus. Voilà. Il y a plein de solutions. Aucune n'est satisfaisante. Mais je ne fais pas tant un exercice de réflexion pour définir ce qui est de l'ordre du désirable et ce qui me ferait plaisir. J'essaye de regarder ce qui relève du possible. Voilà. Mon meilleur scénario, c'est le NFP au pouvoir, avec une abstention des macronistes sur des motions de censure, dans un premier temps. Et un travail d'amendement, qui empêchera du coup le nouveau Front populaire d'appliquer son programme intégralement. Je pense que ce serait ce qui respecterait le mieux la volonté des électeurs. Et ce qui permettrait à tous les groupes de garder leur identité. Et d'ailleurs, moi je considère que ce serait un déni de démocratie que de ne pas nommer le nouveau Front populaire au pouvoir. Ou de ne pas leur proposer une alliance. Charge au NFP de la refuser, s'ils le souhaitent. Ça, c'est leur problème. Oui, j'ai vu. Il y a plein de... Alors, moi, ça m'amuse beaucoup. Vous vous doutez bien, parce que j'ai un sens de l'humour extrêmement développé. Je vois beaucoup de gens de gauche se mettre à rêver de 49-3 pour gouverner. Comme dirait Clément Viktorovitch, mais gauchiste sûr, dans le chat. c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes qui, depuis 7 ans, hurlent à chaque fois qu'il y a un 49-3 qui est utilisé. Et là, en 24 heures. Ils sont devenus partisans du 49-3 en disant « Ah, mine de rien, c'est pas mal, ça permet de se sortir de la crise. » Bah, tu m'étonnes. Ah là là, le 49-3 populaire. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce qu'il y a le mauvais 49-3, et puis il y a le bon 49-3. Tu comprends? Ça n'a pas le même goût. Ouais. C'est juste un 49-3. Non, non, mais c'est très bien. Mais comme quoi, les gens qui insultent en permanence la France insoumise en disant que c'est une bande de sectaires qui sont incapables de changer d'avis, vous voyez bien. Tout à fait capable de changer d'avis. Je viens tout juste de tomber sur un tweet avec cette blague. Moi j'ai quitté Twitter donc c'est pas moi. J'ai pas tweeté. Retournement de veste? Oh non, faut pas utiliser des gros mots tout de suite. C'est pas un retournement de veste, c'est une adaptation nécessaire de mes opinions compte tenu de la situation exceptionnelle qui appelle à des solutions exceptionnelles. C'est du pragmatisme face aux événements. Mais c'est ça le jeu, c'est au demeurant, bon, blague à part. C'est ça exercer le pouvoir. C'est ça exercer le pouvoir. C'est se confronter à ce genre de truc. C'est se retrouver dans des situations dans lesquelles bah, tes convictions voudraient que tu fasses pas ça, mais en fait, le réel t'impose de faire ça. Et t'en as pas envie, ça te fait chier, mais en fait, t'as pas trop le choix, et c'est nécessaire, et c'est mieux que rien, et c'est pas pire qu'autre chose. Et tu te dis que ce qui compte, c'est de sauver l'essentiel, pas l'accessoire, donc tu es prêt à faire des compromis. C'est la politique du compromis, à accepter de faire des compromis avec soi-même. Le pouvoir corrompt. Bah oui, le pouvoir corrompt. Mais il n'y a que les esprits purs qui ne seront jamais corrompus par rien. Parce qu'ils ne gouverneront jamais. Si tu fuis le pouvoir par principe et que tu ne le veux pas et que tu ne l'exerceras jamais, que tu n'auras jamais de bilan, etc., c'est sûr, tu seras jamais confronté à l'exercice. Donc, tu garantiras ta pureté et tu ne seras pas corrompu par le réel. Et le pouvoir, c'est difficile. Le pouvoir, c'est chiant. C'est le cas du RN, tu crois? Ah, le Rassemblement national a pour lui de ne pas avoir de bilan. Le RN n'a jamais gouverné le pays. Alors du coup, ils disent, ah non, non, mais nous, on a des idées, on a des projets, ça va être facile, vous allez voir, on va améliorer la vie des Français, etc. Ils ont été au pouvoir dans des villes, ils ont participé à des... Ils ont été dans l'opposition dans beaucoup d'assemblées différentes. Ils ont été au pouvoir entre 40 et 45, leurs ancêtres. Mais pour autant, ils se présentent devant les Français vierges de toute compromission et de toute participation à un exécutif national. La même pour LFI. La même pour LFI, pour une grande majorité de leurs députés, effectivement, qui n'ont jamais gouverné. Jean-Luc Mélenchon, lui, a réussi à faire oublier à tout le monde qu'il avait gouverné. Jean-Luc Mélenchon a été un responsable socialiste pendant des décennies, grand défenseur de François Mitterrand, membre d'un gouvernement de gauche plurielle qui a privatisé des entreprises. Mais comme Jean-Luc Mélenchon, à partir de 2005, a incarné la gauche du non à la Constitution et l'opposition à François Hollande, et qu'il a décidé de quitter le Parti socialiste en 2008, il s'est refait une virginité politique, et aujourd'hui, il est effectivement rejoint par beaucoup de gens qui considèrent que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais gouverné, etc. Le droit à l'oubli, ouais. Il a dit oui à Maastricht. Ouais, il a dit oui à Maastricht. Il a voté oui au référendum de 92 sur Maastricht. C'était des années cheloues où il était proche du camp Rocard. Wauquiez dit accepter l'idée d'un accord législatif avec Ensemble. Mais non, mais tu déconnes, il a dit l'inverse ce matin. Non, plus rien, moi. Alors, Laurent Wauquiez rejette l'idée. Laurent Wauquiez rejette l'idée de coalition gouvernementale, mais évoque de possibles pactes législatifs à l'Assemblée. Nous ne participerons pas à des coalitions gouvernementales, a tranché Laurent Wauquiez, le nouveau président du groupe LR à l'Assemblée nationale, dans une déclaration devant la presse, une déclaration qui clarifie la position de son parti, alors que certains cadres des Républicains ont tendu la main au camp macroniste, dont Bruno Retailleau et Xavier Bertrand. Nous ne croyons pas que l'on peut répondre à la crise d'un pays par une combinaison d'appareils, estime le député LR de Haute-Loire, qui évoque la nécessité d'un travail sur le fond permettant de rassembler un maximum de Français en apportant des réponses positives sur la base de propositions de fond sur lesquelles nous devons œuvrer. Compliqué. En ce sens, le possible candidat de la droite à l'Élysée en 2027 a décidé de rebaptiser son nouveau groupe politique qui s'appellera la droite républicaine, a annoncé le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les Français sont orphelins d'une offre positive, nous sommes très lucides, la droite républicaine n'est pas encore en mesure d'incarner cette offre, précise-t-il, estimant que nous devons tout rebâtir, tout reconstruire. C'est ce à quoi nous allons nous employer pour mettre en œuvre une nouvelle offre politique d'une droite indépendante, poursuit le ténor de la droite. À l'instar de députés de l'aile droite du camp présidentiel, dont Benjamin Haddad, Mathieu Lefebvre, le président LR à l'Assemblée, a menacé de voter une motion de censure si le futur gouvernement comprenait des députés issus de la France insoumise. Pas étonnant, ça. Tout gouvernement qui comporterait des ministres de la France insoumise fera l'objet immédiatement de notre part d'une motion de censure. Ok. Bah ça clarifie rien, hein. Ça clarifie rien, on a l'impression que Wauquiez dit la même chose que Macron, c'est-à-dire il faut travailler à trouver des solutions d'ordre, de machin, mais pas de compromission, pas de coalition, un travail texte par texte. Ok, très bien. T'as lu la lettre de Macron? Ouais, on l'a lu tout à l'heure, la lettre de Macron, ouais. Ouais, on l'a lu. Elle dit quoi la lettre? Elle dit rien. La lettre de Macron ne dit rien. Emmanuel Macron dit des banalités en disant qu'il faut travailler à trouver des majorités de projets avec les forces républicaines qui le veulent bien. C'est un vœu pieux, c'est un appel du pied. Pas très intéressant. Honnêtement, c'est pas très intéressant. Mais je maintiens ce que je dis sur le fait que Macron n'a pas complètement perdu la main. Macron n'est pas en situation de cohabitation à l'heure actuelle. Macron a un groupe de 140, 150 députés à l'Assemblée nationale, ce qui le laisse au centre du jeu dans la constitution d'hypothétiques coalitions ou de majorité de projet. Autrement dit, si, admettons, Clémence Guettet est nommée Première ministre, Emmanuel Macron ne sera pas en situation de cohabitation. Ou pour être plus précis, il sera dans une vraie cohabitation, puisqu'il aura du pouvoir, et notamment le pouvoir de faire échec au gouvernement. Donc il a un poids politique non négligeable. Pas suffisant pour gouverner, mais non négligeable. Est-ce que Macron va faire la traditionnelle interview du 14 juillet? Il sera forcé de parler un peu plus dans une lettre. Je suis d'accord avec toi d'effet 14, j'aimerais bien que Macron s'exprime le 14 juillet. Il ne l'a pas fait les dernières années, dans des contextes de guerre en Ukraine, etc. Donc on verra. Emmanuel Macron n'a pas l'obligation de donner une interview le 14 juillet. Il ne l'a pas toujours fait. Avant, c'était plus ou moins une tradition. Mais en général, c'est une tradition aussi de faire une interview le 14 juillet pour aborder spécifiquement les sujets internationaux et défense. Est-ce qu'un député peut changer de groupe au cours d'un mandat? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est possible que Sacha Houlier rejoigne le NFP? Non. Le NFP est un accord de coalition entre des partis politiques pour des élections législatives. Le NFP à l'Assemblée nationale fera l'objet d'une sorte d'intergroupe, puisqu'il y aura plusieurs groupes de députés, insoumis, communistes, écologistes, socialistes, qui vont travailler en intergroupe parce qu'ils sont une coalition. Mais Sacha Houlier, a priori, ne va pas rejoindre cette coalition de groupes. Sacha Houlier, s'il forme un groupe de députés sociaux-démocrates issus de la Macronie, serait un allié potentiel du NFP, avec ou sans LFI, je ne sais pas encore, il faudrait clarifier ça. C'est con qu'il n'y ait plus Baxit, hein. Putain, on aurait pu inviter Sacha Houlier et lui poser la question. Alors, pour vous, ils sont d'extrême gauche, ils sont infréquentables, les LFI? SMS-le. Vas-y. Hello Sacha, bravo pour ta réélection. J'ai plein de questions sur ton initiative. De créer un nouveau groupe. Tu rejoindrais le NFP. Hop. Bien à toi. Jean. Voilà. Le texto à Sacha Houlier. Aussi, il va me répondre. Je pense qu'il n'a pas que ça à foutre en ce moment. Tu peux résumer ce qui se passe avec Macron à nouveau? Bah, il semblerait qu'Emmanuel Macron soit en train de manœuvrer en vue d'un gouvernement minoritaire qui comprendrait les macronistes et la droite. Alors jusqu'où la droite, oui ou non au Rassemblement National, il y a eu un dîner entre Édouard Philippe et le Rassemblement National, bon. Donc on se dirigerait plutôt vers ça. Et en même temps, Emmanuel Macron a écrit une lettre aux Français dans la presse quotidienne régionale aujourd'hui, qu'on a lu tout à l'heure, et qui dit pas grand-chose, si ce n'est qu'il faut œuvrer à trouver des majorités au sein des forces républicaines, blablabla. Donc voilà où on en est aujourd'hui à date. Et je rappelle que le nouveau Front Populaire n'est toujours pas foutu de donner un nom de Premier ministre, ce qui ne va pas dans son sens. Le nouveau Front Populaire serait bien inspiré de dégainer vite un nom de Premier ministre et une formation gouvernementale pour tordre le bras à Macron et le forcer à les nommer. Comme je le comprends, il refuse un gouvernement minoritaire. Bah, il n'a pas le choix. Pourquoi le nouveau Front Populaire ne font pas juste un vote interne vite fait au final? Parce que la France Insoumise serait minoritaire dans ce vote et ça les arrange pas. En plus, la France Insoumise n'aime pas trop ça, les votes. Mais surtout parce que tu peux pas voter sur une composition gouvernementale, ça doit se négocier. C'est pas juste le Premier ministre qui compte, c'est aussi la composition du gouvernement, qui tu mets à quel ministère et tout. Donc t'as besoin de l'autorité d'un Premier ministre. Donc, vote à choix multiple, ouais. Donc non, c'est la difficulté, qu'a le nouveau Front Populaire aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nom de Premier ministre, et quand bien même ils se mettraient d'accord, le Premier ministre en question n'aurait pas l'autorité suffisante pour composer son gouvernement librement. Principe d'une coalition, tu me diras, hein. C'est le jeu. Ah merde, mon écouteur, il est pété. Non, c'est bon. Bien trop de paramètres pour la gauche, ça discute trop. Bah ouais, et ça va pas s'arrêter, hein. Mais le... Non, mais ouais, enfin, le choix du Premier ministre reste une difficulté pour le Mouvement populaire qui l'empêche de peser concrètement, quoi. La coalition ensemble LR, tu y crois? Non, j'y crois pas. Le problème de la gauche, c'est que derrière se joue le leadership pour la prochaine présidentielle. Semble-t-il, oui, tu as raison. C'est un enjeu. Ça représente quoi les affaires courantes que le gouvernement actuel doit gérer? Les affaires courantes, c'est le fonctionnement habituel des ministères, en fait. C'est l'organisation logique des choses, c'est des décrets minimums pour nommer des préfets, des recteurs d'académie, enfin, pour faire tourner la machine normalement. Le déblocage de budget pour faire face à des incendies en forêt, je sais pas, c'est. Ouais, c'est le fonctionnement habituel de la machine de l'État sans réforme. Tu fais rouler la machine, quoi. Tu prends les décisions minimales qui s'imposent juste pour faire tourner la boutique. Tu penses sous quel délai on pourrait connaître le nouveau Premier ministre? Je pense qu'on connaîtra le nouveau Premier ministre. En tout cas, attends. Je pense qu'on connaîtra le nom du nouveau Premier ministre proposé par le nouveau Front populaire ce week-end ou en début de semaine prochaine. Est-ce que Macron va le nommer Premier ministre tout de suite? Je sais pas. Donc je pense que la semaine prochaine, on en saura plus. Est-ce que c'est possible que Macron laisse Attal Premier ministre jusqu'à l'automne? Oui, c'est possible. C'est possible que la situation mette du temps à décanter et qu'Emmanuel Macron souhaite maintenir Gabriel Attal pour assurer la continuité pendant la période des Jeux Olympiques, par exemple. Ok, très bien, à ce moment-là, c'est pas grave, ça décale juste le problème à septembre prochain, quoi. Est-ce que c'est pas un gros déni de démocratie? Bah non! Parce que il est difficile d'interpréter ce qu'a dit la démocratie, c'est ça que je veux dire. C'est pas un déni de démocratie de maintenir un gouvernement temporaire, technique, pendant qu'une assemblée n'est pas foutue de se mettre d'accord. Pour que la démocratie parle, il faut que l'assemblée parle. Et là, l'assemblée, elle est bloquée, elle n'y arrive pas. Donc, pour l'instant, le maintien de Gabriel Attal au pouvoir n'est pas un déni de démocratie. C'est une décision technique prise par le président qui, de façon, n'a pas mieux, en fait. Et de toute façon, c'est un gouvernement qui ne fera rien. Ce sera un déni de démocratie de ne pas nommer un Premier ministre NFP que le NFP a désigné comme son candidat. Ça, ce sera un déni de démocratie. La première coalition à l'Assemblée nationale présente un nom de candidat. Le président de la République doit le nommer Premier ministre. S'il le fait pas, c'est un déni de démocratie. Ça, je suis d'accord. Après, ce Premier ministre pourra se faire dégager par une motion de censure, ce ne sera pas antidémocratique, au contraire. Mais on retournera dans le même problème. Mais il n'y a pas de nom, exactement. Il n'y a pas de nom à l'heure actuelle de Premier ministre du NFP. Donc pour l'instant, c'est pas antidémocratique de ne pas le nommer, puisqu'on ne sait pas qui c'est. Comment fonctionnent les motions de censure? Ah, il n'y a rien de plus simple qu'une motion de censure. Hein. C'est un texte à la con qui fait une page et qui dit nous censurons le gouvernement. Il est soumis au vote des députés. Et s'il y a une majorité absolue des sièges qui votent la motion de censure, alors le gouvernement dégage. Voilà, c'est bête et méchant. il faudrait que le RN ne vote pas les motions de censure contre les NFP. Alors ça, faut pas trop y croire, hein. Le RN votera les motions de censure et déposera même des motions de censure contre un gouvernement NFP. En revanche, l'enjeu, c'est sur les macronistes. Et c'est pour ça que moi, je vous redis que ma théorie perso, c'est qu'Emmanuel Macron va nommer le nouveau Front Populaire au pouvoir et va dire aux macronistes de ne pas les censurer tout de suite. Et de peser dans les négociations en faisant le jeu des amendements. Voilà, c'est ça qui va se passer. Après, techniquement, la France a plus voté à droite qu'à gauche. Ce serait pas antidémocratique de mettre un premier ministre de gauche. Bah, de toute façon, on aura la réponse vite, puisqu'il y aura potentiellement une motion de censure. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, l'Assemblée nationale penche plus à droite qu'à gauche. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi je dis qu'un gouvernement de gauche sera minoritaire et aura beaucoup de mal à faire passer ses textes. Je vous rappelle que l'enjeu pour un gouvernement, c'est pas tant d'avoir son cul vissé sur un siège de ministre, on s'en branle. Ce qui compte, c'est de pouvoir changer les choses, mettre en œuvre un programme. Et aujourd'hui, le nouveau Front Populaire n'a pas les moyens politiques de mettre en œuvre son programme. Alors, il pourra potentiellement se retrouver au gouvernement, mais on verra sur les votes des lois et les amendements, ça va être très très dur pour la gauche. Et il passera clairement pas le vote du budget en 2025. Ça, le vote du budget, ça va être compliqué. Combien de temps le NFP peut tergiverser avant de proposer un nom? Bah, il n'y a pas de délai maximal, hein, donc ça peut être infini. Les engagements qui ont été pris par les leaders du nouveau Front Populaire, c'est qu'on aura un nom de Premier ministre d'ici la fin de cette semaine ou le début de la semaine prochaine. Je crois que c'est Olivier Faure qui a dit ça. Très bien, ok, on attend. Merci Talion, qui offre 10 subs, merci beaucoup. Est-ce que les ministres participent au vote de la présidence de l'Assemblée? Non, les ministres ne votent pas à l'Assemblée nationale, ils sont membres du pouvoir exécutif, pas du pouvoir législatif. Donc on verra si Macron va jusqu'au bout de sa douille et décide de nommer un Premier ministre de droite en comptant sur une abstention des RN. Ce qui serait, à mon sens, antidémocratique. Bah, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord, on nomme le NFP au pouvoir et ils se font dégager par une motion de censure. Et ensuite, on nomme un mec de droite en espérant qu'il se fasse pas dégager par une motion de censure, mais il se fait quand même dégager par une motion de censure. Et dans un troisième temps, eh ben on nomme un gouvernement technique parce qu'on n'a pas le choix, on a bien vu que les deux marchaient pas. Voilà. C'est mon plan pour les 5 prochains mois. Gouvernement technique, ça sera du camp Macron du coup. Non, gouvernement technique, ça sera un gouvernement de hauts fonctionnaires. C'est-à-dire des personnes qui ne représentent rien politiquement et qui de toute façon ne sont là que pour expédier les affaires courantes. Et l'Assemblée constituante n'est toujours pas une solution au problème. Toujours pas. Tu vas partir en vacances quand même? Ouais, je vais essayer de prendre des vacances, ouais, quand même, il y a un moment, ça va. Est-ce qu'il y aura des accords par texte selon toi? Possible. Mais ça va être compliqué, hein? On va réussir à mettre d'accord les macronistes et le nouveau Front Populaire sur des textes. Ouais, des textes comme La fin de vie, par exemple, ok, ça, pourquoi pas? Mais bon, c'est pas structurant pour le pays, hein. Est-ce que pour toi, Macron redissoudra dès qu'il le peut? Ça dépend de comment ça fonctionne pendant un an. Si c'est inextricable et que c'est le bordel et qu'on n'arrive à rien, oui, il faudra, contraint et forcé, redissoudre, au risque d'avoir le même problème. Un appel à la constituante de gauche te semble possible? Ah non, mais l'appel à la constituante, il existe déjà, j'ai signé la pétition, je suis pour la constituante, je rêve d'une constituante dans ce pays, j'adorerais. Let's go, allons-y, ça ne solutionnera pas le problème qu'on a aujourd'hui. C'est un autre projet pour autre chose, pour plus tard, pour changer de république, etc. Mais ça ne change rien au fait que là, on ne peut pas dissoudre avant un an. C'est quoi une constituante? Une constituante, c'est une assemblée qui peut être élue ou tirée au sort, ça dépend, qui n'a pour mission que d'écrire une nouvelle constitution. Voilà, c'est ça une constituante, comme son nom l'indique. Changer de république. Macron pourrait garder son gouvernement temporaire jusqu'à la prochaine dissolution. Non, je pense qu'il va bien falloir au bout d'un moment qu'il nomme un Premier ministre. Hein. On ne peut pas continuer avec Gabriel Attal éternellement. Hein. Gabriel Attal, il peut faire tampon pendant quelques semaines, quelques mois. Et à un moment, il va quand même falloir nommer quelqu'un. Est-ce que la constituante est définie dans la constitution ou c'est un processus en marge? C'est pas défini dans la constitution, la constituante. La Belgique a vécu longtemps sans gouvernement, pourquoi pas la France? La Belgique a tenu 2 ans sans gouvernement, avec un gouvernement technique. C'était pas une situation souhaitable. Et c'était pas souhaité par les Belges. Et ça énervait tout le monde. Personne n'était content. C'est une vue de l'esprit, c'est une vue de France que de croire que les Belges. Ah bah regarde, on peut très bien vivre sans gouvernement, ça marche. Non. Ça, c'est un point de vue extérieur qui a l'impression que tout se passe bien. En interne, ça se passait très mal. Ça fonctionnait aussi pour une raison, c'est que la Belgique, c'est un système quasi fédéral, hein, avec des régions qui ont des pouvoirs absolument énormes, qui font tourner la boutique. Mais du reste, personne en Belgique n'était content de la situation de blocage institutionnel. Les choses n'avançaient pas. Il n'y avait pas de réformes qui étaient menées. Il y avait besoin de mener des réformes de l'avis de plein de gens. Donc, ni les entreprises, ni les associations, ni les syndicats n'étaient contents, ni les politiques. Donc non, c'était pas une situation enviable. Et heureusement que les collectivités locales faisaient tourner la boutique pendant ce temps-là. C'était qu'au niveau fédéral que ça bloquait. Est-ce que Macron peut utiliser l'article 16 en prétextant le blocage du pays? Non, parce que l'utilisation de l'article 16 est soumise à l'appréciation du Conseil constitutionnel qui sera forcé de constater que le pays n'est pas en situation de pouvoirs exceptionnels et que donc Emmanuel Macron n'a pas le droit de prendre des décisions avec l'article 16. Qui a le pouvoir de lancer une constituante? Le Parlement. Via le vote d'une modification de la Constitution. Donc il faut un texte de loi qui soit voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, et qui soit voté aux 3/5 du Congrès, ou soumis à référendum. Donc, le Sénat risque pas de bloquer ça, si. Si, si. Donc ça a très peu de chances d'arriver. Donc ça a très très peu de chances d'arriver. Trop risqué une constituante avec un RN aussi fort et au sein de la population. Ah bah c'est sûr que les débats à la constituante vont être compliqués. Hein. S'il y a une constituante un jour. Clairement. Les amis, il est 17h46. Moi, je vais m'arrêter là. Putain, c'est trop bizarre. Il y a eu Baxit hier soir. J'ai l'impression qu'on est en week-end, mais pas du tout. On est au milieu de la semaine. Hop. Et j'ai une réunion dans 10 minutes. Merci les copains. Passez une bonne soirée. Je sais pas si je fais un live demain. Peut-être. On verra. Merci à toutes et à tous, passez une bonne soirée et à tout bientôt. Salut tout le monde, ciao, bye bye, merci encore.